Voilà, chers amis, c'est vraiment une joie d'être ensemble ce matin pour le culte. Il y a un ou deux jours, un ami téléphonait à un autre en disant « Mais quel est le programme pour le week-end? Qu'est-ce que vous faites dimanche ?» Alors cet ami a répondu au téléphone « Eh bien, il y a le culte, et puis… » Donc, c'est vraiment un moment important, même par une belle journée comme celle-ci. Et justement, par une belle journée comme celle-ci. Voilà, le temps d'été est un moment tout particulier pour voilà, la nature, le soleil, les balades, les vacances, quand on ne travaille pas. Enfin, il y a le week-end quand même, le culte, et puis d'autres choses. Mais c'est vrai que quand le soleil brille par une si belle journée, quand le ciel est si bleu, alors, on admire la nature, on admire la création. Et ça nous parle tout particulièrement. Il y a beaucoup de passages dans la Bible qui chantent la beauté de la nature, n'est-ce pas ? La perfection de la nature, de la création. Et parmi ces passages, un psaume, on va rester dans les psaumes donc ce matin, un psaume que j'aime beaucoup, c'est le psaume 19. Je crois que plus ou moins tous nous connaissons le début de ce psaume. C'est un psaume très très beau, oui, parce qu'il chante la beauté de la nature, mais aussi sur le plan, disons, littéraire, c'est magnifiquement poétique. Il y a une puissance poétique dans ce psaume qui est tout à fait remarquable. Alors voilà, j'aimerais vous le lire. Bon, c'est une traduction un petit peu personnelle, mais vous connaissez le texte, je pense, pour la plupart, du psaume 19. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'espace révèle l'œuvre de ses mains. Le jour en fait jaillir la parole vers un autre jour, et la nuit l'enseigne à une autre nuit. Ce ne sont ni des paroles, ni un langage, mais sur toute la terre, ils étendent le cordeau. Jusqu'aux extrêts du monde, leur parole retentit. Et là, aux extrémités du monde, là où le soleil a dressé sa tente, et lui, comme un jeune marié qui sort de la chambre nuptiale, tout heureux, comme un champion qui s'élance, il part d'une extrémité du ciel vers l'autre et rien n'échappe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle redonne la vie. Le témoignage de l'Éternel est sûr. Il rend sage l'ignorant. Les ordres de l'Éternel sont droits. Ils remplissent le cœur de joie. Les commandements de l'Éternel sont limpides, ils illuminent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle dure à toujours. Les ordonnances de l'Éternel sont vraies, elles sont toutes justes, plus précieuses que l'or, que beaucoup d'or fin, plus douces que le miel, celui qui coule des rayons. Ton serviteur, lui aussi, en est averti. Pour qui les garde, la récompense est grande. Qui comprend ces fautes involontaires? Pardonne-moi celles qui me restent cachées. Protège ton serviteur des insolents, qu'il n'ait pas l'avantage sur moi. Alors je serai intègre, pardonné de nombreux péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur devant toi, Éternel, mon rocher, mon sauveur. Donc voilà ce psaume. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il y a trois strophes. Bon, j'ai essayé dans la lecture de le faire sentir, mais trois strophes très différentes. Et ce qui frappe aussi dans ce psaume, quand on le médite un petit peu plus à fond, ce sont justement les contrastes. La première strophe, c'est l'enthousiasme, n'est-ce pas ? les cieux racontent la gloire de Dieu, comme quand on se trouve devant un magnifique paysage de montagne, n'est-ce pas ? La semaine passée, avec Madeleine, nous avons eu l'occasion d'aller à Chamonix. Alors là, vous avez le Mont Blanc, n'est-ce pas ? Vous avez toutes les aiguilles de Chamonix. C'est absolument extraordinaire. Mais sans aller dans ce lieu connu mondialement, n'est-ce pas ? Quand on contemple la nature ou un coucher de soleil, les si belles photos que nous avons vues tout à l'heure l'évoquent un petit peu. On est saisi d'enthousiasme, n'est-ce pas ? Par la beauté du paysage, mais bien sûr, c'est classique. La nuit des étoiles, c'était il y a quelques jours, je crois, enfin, quelques nuits. La voûte étoilée, là, pendant ces jours d'été, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, la première strophe, c'est ça, c'est l'enthousiasme. Et puis, la deuxième strophe, il y a comme une rupture tout à coup. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est vrai, il rend sage le simple. Là, n'est-ce pas, c'est beaucoup plus précis, c'est le calme, c'est la méditation devant l'Écriture, devant la parole de Dieu. Et quelquefois, quand on lit la Bible et qu'on est saisi par le message, par la pureté, la grandeur de la parole de Dieu, alors on est dans cette atmosphère-là. Et puis, il y a une troisième partie, je pense que vous l'avez remarqué, où alors là, c'est d'une lucidité intérieure implacable, n'est-ce pas ? Jusqu'à évoquer les fautes involontaires, n'est-ce pas ? Au tréfonds de soi-même. Donc il y a trois strophes, mais qui sont complètement différentes comme atmosphère. La première aussi parle de la nature en général. La deuxième parle de la loi de Dieu, de l'Écriture, la Sainte Écriture, comme disaient les réformateurs, n'est-ce pas ? La parole de Dieu. Et la troisième strophe sonde le cœur de l'homme, ses pensées profondes, intimes, ses actes, le mal aussi. Et le contraste aussi entre ces trois strophes et au niveau de la parole. Dans la première strophe, c'est ce qu'on appelle, en termes théologiques, la révélation générale, n'est-ce pas ? Dieu se révèle par la nature. Dans la deuxième, c'est la révélation de Dieu par écrit. Là, c'est précis, c'est clair, on peut l'examiner, on peut l'étudier. Et dans la troisième, la parole qui retentit, c'est l'introspection. C'est quand on s'examine jusqu'au plus profond de soi-même. Donc voilà un psaume. Alors, évidemment, les spécialistes se disent, mais est-ce que ce n'est pas trois psaumes qui ont été réunis comme ça, plus ou moins bien ? Enfin, on se pose des questions sur l'unité de l'ensemble. C'est vrai quand on examine ce texte magnifique. Alors, maintenant, examinons-le justement de plus près. Prenons la première strophe, les versets 2 à 5. Voilà, on peut examiner le texte dans cette traduction-là. Les cieux racontent la gloire de Dieu, l'immensité de l'espace révèle l'œuvre de ses mains. Le jour en parle à un autre jour. Le verbe qui est employé, c'est le verbe jaillir, n'est-ce pas ? Et la nuit à une autre nuit. Voilà. C'est bien sûr la nature, la voûte céleste, l'immensité du cosmos, l'éloquence de la nature qui parle au monde entier. Et ça, c'est universel, c'est universel. Les premières années où nous étions en Afrique, ma femme et moi, ça a été mon étonnement de découvrir que dans toutes ces tribus qui vivaient au sud du Tchad, n'est-ce pas, dans chacune de ces tribus, il y avait la croyance ferme et claire en un Dieu unique, dans le sens unique par rapport aux autres, n'est-ce pas, mais unique parce qu'il avait créé toute chose. Alors on rajoutait qu'il y avait eu un problème, que, alors dans certaines tribus on racontait que c'était une femme qui moulait le grain, n'est-ce pas, et puis elle a donné un coup trop fort dans le ciel, alors du coup le ciel s'est retiré et puis Dieu était fâché, alors depuis il est très loin, on ne peut même plus vraiment le prier, il ne s'occupe plus des hommes, etc. Il y avait une histoire un peu semblable dans toutes ces tribus, mais la croyance en un Dieu créateur, n'est-ce pas? Et c'est universel. Vous allez au fin fond de la Sibérie, au fin fond de la forêt amazonienne, il y a cette croyance ferme d'un Dieu créateur qui a créé toute chose, n'est-ce pas? Même tous les savants, aujourd'hui, à un moment donné, dans leur recherche, se trouvent devant un abîme, n'est-ce pas? Parce que ce qu'ils découvrent est tellement extraordinaire, alors qu'eux s'occupent de ce qui est ordinaire, de ce qu'on peut saisir, n'est-ce pas? Pas par des chiffres, pas par des mots, par l'étude, n'est-ce pas? À un moment donné, on est devant un abîme. Et là, évidemment, cet abîme-là, je pense que nous l'avons, nous, franchi, c'est celui du Créateur, n'est-ce pas? Le Créateur. Alors le ciel, l'immensité de la nature, c'est un lieu de découverte enthousiasmant, voire de conquête. Aujourd'hui, on envoie des sondes après des mois et des mois de voyage, mais pourquoi? Parce qu'on veut, savoir ce qu'il y a au-delà, encore au-dessus du ciel, n'est-ce pas? Comme on le disait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a? Un lieu de découverte, un lieu de conquête, ou alors un lieu de mystère, voire de mystique, n'est-ce pas? Voyez le développement à côté de cet immense intérêt pour la science, l'immense intérêt aussi pour l'astrologie, n'est-ce pas? Les planètes qui parlent selon leur position dans le ciel, etc. Voilà, alors chacun essaie de voir quelque chose dans ce ciel. Mais là, dans le psaume, c'est clair. Ce que l'auteur de ce psaume découvre, c'est le Créateur. Et il est plein d'admiration, il est plein d'enthousiasme, parce que cela lui parle de la gloire de Dieu, n'est-ce pas? De la gloire de Dieu par sa création, n'est-ce pas? Jusqu'au bout du monde. Et quand il évoque, en somme, le bout du monde, n'est-ce pas? Alors c'est la suite, le verset 6, et suivant, n'est-ce pas? Alors il y a le soleil, n'est-ce pas? Le soleil, et bon, poétiquement, on le voit jaillir d'une extrémité du monde et puis s'élancer. C'est si beau d'assister à un lever de soleil. Assez régulièrement, dans certains camps, dans certaines colonies, on lève les enfants très tôt et puis on grimpe sur une montagne proche pour assister au lever du soleil. Le jour de Pâques, par exemple, c'est formidable, n'est-ce pas? Peut-être vous avez fait cette expérience, le lever du soleil. Et comment la lumière vient très, très lentement, n'est-ce pas? Le ciel noir se blanchit peu à peu, et puis tout à coup, le soleil apparaît, et il y a comme une accélération. Le soleil jaillit depuis l'horizon. C'est très, très beau comme expérience, n'est-ce pas? Alors là, le soleil qui est comparé à un jeune marié, n'est-ce pas, après sa nuit de noces, qui est tout heureux et puis conquérant, la vie s'ouvre devant lui. C'est assez joli comme image, n'est-ce pas? Comme un héros, il s'élance, n'est-ce pas, d'une extrémité du ciel à l'autre, et rien ne se dérobe à sa chaleur. Tout cela nous parle de Dieu, parce que ce soleil est aussi une création, bien sûr. La joie, la force, l'universalité. Alors ça, c'est la première strophe, n'est-ce pas? Et changement complet, comme nous l'avons remarqué au début, dans la deuxième strophe, donc les versets 8 et 9, et aussi 10 et 11, vous remarquez comment le texte là est bâti, toujours sur le même rythme, n'est-ce pas? Il y a le nom de l'Éternel qui revient à chaque ligne, 6 fois. L'Éternel, 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 et encore la suite, 6 fois. Alors que dans la première strophe, c'était le nom de Dieu, n'est-ce pas? L'Éternel, c'est le nom propre de Dieu. Yahvé, on ne sait pas comment le rendre, comment le traduire. Là, six fois Yahvé, alors que dans toute la première strophe, on avait simplement le nom de Dieu mentionné. Ça, c'est vraiment la notion universelle de Dieu que tous les peuples perçoivent, n'est-ce pas ? Mais là, c'est le Dieu de l'Alliance, c'est le Dieu qui s'est fait connaître à nous. Et pour le connaître, il faut connaître son nom particulier. Parmi nous, il y a Paul, il y a Pierre, il y a Jacques, il y a Francine, et là, c'est Yahvé, n'est-ce pas ? C'est l'Éternel. Voilà, qui s'est révélé il y a bien longtemps à Abraham, à Moïse, et puis à tous les croyants, et qui s'est révélé encore à nous un jour, avec lequel nous avons pu, comme nous l'avons si bien chanté tout à l'heure, établir une relation personnelle. Je te connais par ton nom. Et Seigneur, nous connaissons ton nom. L'Éternel, six fois l'Éternel. Et bien sûr, dans une relation, il ne suffit pas de connaître le nom de l'autre. Il faut pouvoir partager, comme on dit, il faut pouvoir lui parler. Il y a un dialogue qui s'établit. Et c'est la parole de l'Éternel. Évidemment, ces mots nous font un petit peu peur. La loi, le témoignage, les ordres, les commandements. Mais tous ces mots sont différents, n'est-ce pas ? Il y en a six pour évoquer la parole de Dieu, la Bible que nous avons, que nous pouvons lire, que nous possédons. Vous savez que le psaume, dans chaque verset pratiquement du psaume 119, n'est-ce pas ? Cet énorme psaume, eh bien, la Bible, l'Écriture est mentionnée. Et sans cesse par des noms différents, n'est-ce pas ? Et ces noms différents, les traductions ont bien du mal à rendre ça, en tous les cas, mettent en valeur la parole de l'Éternel. N'est-ce pas ? C'est comme un diamant brut que l'on trouve là, tout au fond de la terre. Eh bien, ce n'est pas un diamant brut que l'on va utiliser pour mettre sur une bague ou un collier ou que sais-je. Il faut qu'il y ait toutes sortes de facettes qui vont refléter la lumière. Il faut qu'un diamant soit taillé. Et chacun de ces noms est une facette de la parole de Dieu. Cette parole de Dieu si variée, n'est-ce pas ? Il y a des chants d'amour, il y a des textes de loi, il y a des généalogies, il y a des histoires, il y a des lettres, n'est-ce pas ? La Bible est tellement variée, n'est-ce pas ? Alors, il y a six noms liés à un seul, toujours le même, Yahweh, le nom de Dieu, c'est sa parole, la façon dont il s'exprime, etc. Et puis, six adjectifs aussi. Vous voyez, au verset 8, la loi de l'Éternel, elle est parfaite, n'est-ce pas ? Le témoignage de l'Éternel, il est véridique. Les ordres de l'Éternel sont droits. Le commandement de l'Éternel est limpide. Et la suite, ensuite, la crainte de l'Éternel pur, les ordonnances de l'Éternel sont vraies, n'est-ce pas ? Voilà. Six adjectifs aussi qui évoquent la vérité, la perfection, la sûreté, la solidité, n'est-ce pas ? La pureté, la sincérité de la parole, n'est-ce pas ? Quelle richesse que nous avons dans nos mains, auxquelles on a accès maintenant, n'est-ce pas ? Et puis, on ne se contente pas de décrire toutes ces facettes, cette perfection, cette pureté de la parole, mais aussi ce qu'elle produit. C'est ça qui compte, n'est-ce pas ? Quand on lit la Bible, qu'est-ce qui se passe, n'est-ce pas ? Eh bien, voilà, elle restaure l'âme, n'est-ce pas ? Voilà, ça nous renouvelle, voilà. Ça nous fait du bien dont on a besoin chaque matin pour démarrer la journée. Ça nous rend sage, ça aussi on en a bien besoin, devant tous les problèmes de la vie, n'est-ce pas ? Ça nous réjouit aussi, ça remplit nos cœurs de joie, ça nous éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours, n'est-ce pas ? Les ordonnances de l'Éternel sont justes, et tout cela est évoqué poétiquement par de l'or, n'est-ce pas, la beauté, la magnificence de l'or, et même de l'or fin, n'est-ce pas, plus précieuse que l'or, même que beaucoup d'or fin. Et une autre image qu'on met à côté, c'est le miel. est-ce que vous avez déjà croqué dans un rayon de miel, n'est-ce pas? Alors ça, c'est une expérience, il faut l'avoir fait. C'est si doux, c'est si bon, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui sort tout à fait de l'extraordinaire. Voilà comment est évoquée la deuxième façon dont Dieu se révèle. Après la magnificence de la nature, c'est aussi la magnificence de la parole de Dieu. Alors cette Bible que nous avons, il faut la lire, il faut la lire, n'est-ce pas? Si nous voulons être restaurés, fortifiés, remplis de joie, hein, et puis là, avoir quelque chose qui est juste, qui est droit, qui est pur, qui nous conduit, alors il faut lire la Bible, il faut la lire. Comment est-ce que nous pouvons négliger un si grand trésor évoqué par cette deuxième strophe, n'est-ce pas? Et bien sûr, la suite qui constitue en quelque sorte une troisième strophe, n'est-ce pas, au verset 12, et c'est ce qu'on retire de cette façon dont Dieu parle, à la fois par l'immensité de la création et la précision et la beauté et la pureté de sa parole. Voilà, ton serviteur en est averti. Avant, il y avait les délices, il y avait la joie de l'orfin et du miel. Maintenant, il y a l'intelligence, la sagesse, n'est-ce pas? Et l'avantage, on gagne beaucoup à entendre cette parole de Dieu, la façon dont il s'avertit à nous, n'est-ce pas? Pour qu'il les observe, l'avantage est grand, n'est-ce pas? Instruction, sagesse, récompense, et puis on est très étonné de la suite. Tout à coup, pouf, qui connaît ces fautes involontaires, n'est-ce pas? La sensibilité extrême du fond du cœur, n'est-ce pas? Qui sait, qui est conscient de l'effet qu'il produit, de ce qu'il a fait. Voilà où conduit, en somme, la révélation de Dieu dans la nature et dans sa parole. Et bien sûr, devant cette sensibilité extrême, cette prière qui jaillit tout à coup, préserve-moi des présomptueux, bon, des orgueilleux, des méchants, n'est-ce pas, des barbares, de ceux qui incarnent le mal, qui font tellement de mal. Seigneur, garde-moi. Combien nous avons besoin d'être protégés, d'être gardés. On parle tellement de sécurité aujourd'hui. Notre meilleure sécurité, c'est le Seigneur lui-même. Et nous pouvons chaque jour nous lever le cœur tranquille. Parce que Dieu est tout-puissant, comme nous l'avons si bien chanté tout à l'heure et comme cela a été dit. Combien nous avons besoin de cela? Préserve-nous, n'est-ce pas, qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, pardonné de nombreux péchés. Donc voilà l'ensemble de ce psaume. On a été un peu vite, vous savez, on pourrait examiner encore chaque verset plus à fond. Mais c'est bien d'avoir tout ce panorama. Évidemment, la question qui se pose, et nous l'avons évoquée dès le début, quel est le lien entre tout cela, n'est-ce pas? Entre ces trois points de vue qui peuvent paraître si différents. Quel est le lien? Alors, je me suis posé cette question. Et puis, en lisant un livre il y a quelque temps, voilà, la lumière a jailli dans mon esprit. C'était des écrits de Théodore Monod. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Théodore Monod. La famille Monod est une famille protestante depuis je ne sais combien de générations, n'est-ce pas? Mais ce Théodore Monod, lui, qui est décédé en 2000, n'est-ce pas, à 98 ans, était un homme assez extraordinaire, une figure, un original. C'était un scientifique, et un scientifique de très haut niveau, n'est-ce pas, et qui s'est intéressé au Sahara. Un spécialiste parmi les spécialistes mondiaux du Sahara. Et il a fait je ne sais combien de méharés, parce que toujours sur, n'est-ce pas, son dromadaire, pour explorer le Sahara d'ouest en est et puis du nord au sud. Ces descriptions sont assez saisissantes. Il a beaucoup écrit d'ailleurs. Et puis il s'est intéressé à la vie dans ce désert, et puis à la géologie, bien sûr, à l'histoire. C'est vraiment un personnage, n'est-ce pas? Et lors d'une de ses dernières explorations dans le Sahara, il avait 93 ans, n'est-ce pas? Je crois que c'était sa dernière. Le texte raconte qu'ils étaient là autour du feu, et bien sûr, la voûte étoilée, comme elle peut resplendir dans le désert la nuit, n'est-ce pas? Et il parlait avec ses amis, et puis l'un de ses amis lui a dit, mais vraiment, ben oui, comme tout scientifique, on se pose des questions, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a un au-delà, n'est-ce pas? Au-delà de tout cela? Et qu'est-ce qu'il faut penser de ce passage dans l'au-delà? Ils lui ont posé la question. Alors bon, issu d'une grande tradition protestante, Théodore Monod n'est pas un évangélique comme on peut le définir entre nous, n'est-ce pas? Loin de là. Il était même assez libéral, mais voilà, il y avait quand même cette dimension. Alors, voilà, que penser de l'au-delà? Et voilà ce qu'il a répondu. Il a dit, en tant que scientifique, je ne peux rien dire, évidemment. Je ne peux dire que sur ce qui est mesurable, n'est-ce pas, et visible. Hein, je ne sais pas. Voilà. Mais quand même, en tant que scientifique, je suis curieux. Et ça le caractérisait. Alors je me pose la question. Même si je ne peux pas y répondre, j'aimerais savoir. Mais en tant qu'homme, eh bien, en tant qu'homme, j'espère. Voilà. J'espère. Qu'est-ce que j'espère? Et il a eu cette phrase, eh bien, j'espère que l'on me pardonnera toutes mes fautes involontaires, le mal que j'ai pu faire sans même m'en apercevoir. Le mal que j'ai pu faire aux autres. Vous voyez cette sensibilité d'un scientifique qui ne restait pas seulement dans son laboratoire, mais qui percevait les choses au-delà, n'est-ce pas? En tant qu'homme, un homme qui espérait que, quand il aura disparu, on puisse lui pardonner ses fautes involontaires. Et c'est cette notion de pardon qui peut lier l'ensemble, n'est-ce pas? Devant l'immense beauté de la nature, pas seulement esthétique, aussi scientifique, n'est-ce pas? Et devant, en somme, l'immense beauté de l'Écriture, de la Bible, lorsqu'on la lit, n'est-ce pas? Source inépuisable de connaissances et de sagesse, les deux premières strophes, en quelque sorte, de notre psaume, alors, eh bien, je me pose des questions. Mais qui suis-je? Qui suis-je? Et surtout, qu'ai-je fait, n'est-ce pas? Devant Dieu, devant sa parole, ces questions fondamentales. Et quand je suis devant ces questions, qui quelquefois n'ont pas de réponse, le mal qu'on peut faire aux autres sans le savoir, cette sensibilité jusqu'au bout, alors j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de pardon. J'ai besoin qu'on me pardonne. Et ce pardon, on le trouve auprès de Dieu et on souhaite aussi le trouver auprès de nos proches, n'est-ce pas? Tous ceux que l'on côtoie chaque jour. C'est le lien entre dans cet ensemble du psaume, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le sommet de la révélation, de la parole de Dieu, n'est-ce pas? C'est pas seulement la beauté de la nature, c'est pas seulement la beauté de l'Écriture, n'est-ce pas? Mais le sommet de la révélation, comme nous l'avons vu sur cette magnifique photo, là, tout au début, avec ce soleil qui se couche et puis cet homme qui est courbé devant la croix et qui, là, devant la croix, trouve le pardon, n'est-ce pas? C'est de cela dont on a besoin. Quand on chante la sainteté de Dieu, comme notre sœur l'a prié tout à l'heure, mais qui suis-je pour chanter la sainteté de Dieu? Les anges chantent la sainteté de Dieu. Saint, 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 l'Éternel des armées, n'est-ce pas, Ésaïe 6, sans cesse, parce qu'ils sont tout proches de Dieu, mais moi, comment puis-je chanter la sainteté de Dieu qui m'est révélée par la nature, qui m'est révélée par l'Écriture, par la Sainte Bible, comme on dit, n'est-ce pas, j'ai besoin de pardon. Et ce pardon, je le trouve au pied de la croix, bien sûr. Cette croix qui est là, dans nos lieux de culte. C'est là que je suis libéré. Ce désir de Théodore Monod, oui, j'aimerais que l'on me pardonne mes fautes involontaires. Même le mal dont on n'est pas conscient. Et pourtant, c'est du mal. On peut faire souffrir les gens sans s'en apercevoir, avec les meilleurs sentiments du monde, n'est-ce pas? Et c'est ça qui est grave. Et cette sensibilité-là, on l'a quand on est devant Dieu, qu'on contemple la nature, qu'on contemple sa parole. Et c'est bien ce verset 14 qui l'exprime, n'est-ce pas? Alors, je serai intègre, n'est-ce pas? Intègre, non pas parce que je suis parfait, parce que je ne suis pas parfait, loin de là. Il y a des choses dont je suis conscient, d'autres dont je ne suis pas conscient. Je serai intègre et pur parce que pardonné de nombreux péchés. C'est ça le sommet de la révélation. C'est ça la source de la joie, de la libération. Et enfin, ce verset 15, cette prière magnifique, « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur en ta présence. Ô Éternel, mon rocher, mon refuge, ma sécurité, mais surtout mon rédempteur, c'est-à-dire mon sauveur. » Voilà comment le psalmiste perçoit Dieu lui-même en face de Dieu, tout ce qu'il a ressenti, toute la méditation de son cœur. Eh bien, qu'elle soit aussi la nôtre, chers amis, en ces temps d'été si particuliers, où nous avons le temps peut-être de réfléchir à certaines choses, on est peut-être un peu moins pris par le flot qui nous emporte, que nous puissions là devant Dieu saisir son pardon et goûter la beauté de l'Écriture, la beauté de la nature, et ainsi nous rapprocher du Seigneur lui-même. Prions ensemble. Merci notre Dieu pour ta parole, pour l'expérience de cet homme que nous ne connaissons pas, qui reste plus ou moins anonyme et qui a écrit ce merveilleux psaume, son expérience spirituelle dont nous nous sentons, malgré les siècles, les millénaires qui nous séparent de lui, si proches. Seigneur, tu es magnifique, tu es saint. Nous voudrions te voir, nous voudrions te connaître, mais nous en sommes totalement indignes, tu le sais. Merci pour le sang de la croix, pour le sang de Jésus, qui nous purifie de tout péché, de tout mal. Nous voulons nous réfugier en toi, sur ce rocher solide et ferme, et goûter ton pardon. Et goûter, si c'est possible aussi, la joie du pardon de ceux qui nous entourent. Seigneur, bénis pour nous ce temps d'été, qu'il puisse nous rapprocher de toi. Fortifie-nous, Seigneur, renouvelle-nous. Donne-nous aussi de l'amour pour ta parole, pour la Bible. Donne-nous d'y puiser chaque jour les forces et la lumière dont nous avons besoin. Merci encore pour ces moments de culte que nous pouvons vivre ensemble. Nous voulons te louer, te bénir, au nom du Seigneur Jésus. Amen.